Allons aux fêtes par Régis Debray. L'histoire mise à nu.
L'histoire du politique et ses leitmotifs. Il y a des invariants dans la structuration des établissements humains. La limite extérieure, la hiérarchie intérieure et la référence suprasensible. Ces fondamentaux que tire à jour l'examen des longues durées, eh bien cela fait la syntaxe des civilisations, alias la force des choses. Cela suggère l'existence d'un véritable inconscient des collectifs de type non psychologique, mais organisationnel. Or, l'inconscient n'a pas d'histoire. J'aurai un grand témoin, et ce sera l'empereur Constantin Ier, empereur romain, né en 288, mort en 337 de notre ère. La bêtise n'est pas mon fort, s'excusa un jour Paul Valéry, alias Monsieur Test. On peut lui pardonner à Valéry parce qu'il a eu un moment de faiblesse en déclarant un jour que l'histoire, je cite, était la science des choses qui ne se répètent pas. Ça nous rassure que les plus belles têtes puissent lâcher des bourdes comme vous et moi. Car c'est un fait, l'histoire bégaye, et c'est pas drôle. L'histoire de quoi ? Celle de l'homo politicus, qu'il soit du 1er ou du 21e siècle, de Chine, d'Amérique ou de France. Et c'est qui cet animal ? Généralement de sexe mâle. Les femmes dans ce domaine s'étant plutôt chargées des intérims, mais les voilà qui entrent en nombre dans la carrière. L'homo politicus, ce n'est pas l'homme en société qui change et évolue avec elle. C'est l'angoissé qui établit, qui instaure et qui institue. C'est celui qui fonde, stabilise, identifie et entend faire durer. Faire durer quoi ? Un groupe d'appartenance assez consistant pour lui survivre. Car il faut distinguer entre la politique, qui désigne la compétition, entre clans, classes et individus à l'intérieur d'une enceinte déjà constituée, pour occuper le pouvoir ou s'y maintenir. Et le politique, par quoi s'entend l'organisation des collectivités humaines ou la conversion d'une éphémère effervescence en affectio societatis, qu'il s'agisse d'une cité, d'une seigneurie, d'une nation, d'un empire ou d'une fédération. La politique, c'est une écume faite de petites histoires passionnelle ou terrifiante, dérisoire ou captivante. La politique polarise l'attention et concentre les dépenses d'énergie, avec un rendement assez faible, au vu des résultats. La politique s'agite à l'avant-scène, mais la façon dont s'est constituée la scène elle-même, l'ensemble stabilisé et circonscrit dont il s'agit de prendre les commandes, ou le fait même qu'il y ait un collectif à se disputer plutôt que rien, ça échappe en général à la vue. La politique nous cache le politique, comme les joies de la baignade, le cycle des marées. Or, ce que nous pouvons connaître de l'existence, depuis la proto-histoire, de groupes constitués dont on garde archives ou traces, cela semble s'inscrire dans une histoire où le temps ne fait rien à l'affaire, tant les actes constitutifs se répondent en refrain de siècle en siècle. En sorte, grand avantage de ce temps immobile, qu'on peut toujours se sentir un peu chez soi quand on lit tel ou tel document qui nous emmène chez Aménophis IV, Périclès ou Charlemagne. On se sent dans ce genre de chronique dépaysée, oui, mais jamais exilé pour de bon. Homère est nouveau ce matin et rien n'est peut-être aussi vieux que le journal d'aujourd'hui. C'est une remarque de Peggy, qui n'est pas celle d'un poète, ou pas seulement, mais d'un anthropologue, c'est-à-dire d'un historien de ce qui n'a pas d'histoire. La question pragmatique et prosaïque, chaque fois qu'une multitude entend faire transition d'un tas à un tout, La question a été, est et sera de déterminer 1. Qui fait partie du groupe, 2. Qui a le pas sur qui, et 3. Au nom de quoi. Il n'y a pas mille façons pour une foule de passer d'un état liquide à un état solide, ou du statut de nébuleuse à celui de planète. Il faut 1. Une démarcation, jusqu'ici et pas au-delà. 2. Une référence à une norme extérieure posée comme supérieure. Et 3. Une hiérarchie, c'est-à-dire une série descendante de juridictions, de devoirs et de statuts. Tout ça n'est pas d'une gaieté folle. Tout ça n'est même pas moralement très défendable. Mais c'est ainsi que ça marche. Où qu'on se mette à fouiller dans les annales, on trouvera en positif, au stade inaugural d'une nation, d'un empire ou d'un régime, les marques de ces trois relations constitutives dont je viens de parler. Entre 1, un dedans et un dehors, 2, un haut et un bas, 3, un inter et un méta. Ou, faute qu'ait été satisfait à ces exigences, la chienlit ubuesque et pathétique que Julien Gracq décrit dans les derniers jours de la Commune de Paris. Et si vous ne répondez à aucune de ces trois questions cruciales, quelles frontières, quelles chaînes de commandement et quels dogmes en amont, vous aurez beau aligner sermons et sermons, vous aurez beau esquiver ces fourches caudines parce qu'elles vous font peur ou que vous ne voulez faire de peur à personne, parce que vous êtes plus moral, plus moderne, plus démocratique que vos prédécesseurs, eh bien, votre molécule, elle se décomposera en atomes lâches. Ce que vous y aviez cru consistant se liquéfiera à court ou moyen terme. C'est un phénomène qui porte un nom dans l'histoire d'un pays ou d'un régime, la débâcle, l'équivalent de la colique dans la nôtre. Mettez en regard l'Union européenne, ectoplasme sans contour ni principe suprasensible, et les États-Unis d'Amérique, et voyez la différence. Oh, tout jugement de valeur mis à part, hein, je parle simplement de la résistance et de la cohésion. Et ce disant, je n'oublie pas le discrédit qui pèse à l'université sur ce qu'elle appelle la pensée par analogie, celle qui jette des ponts entre les millénaires et les continents. On préfère l'histoire connectée à l'histoire comparée, susceptible de tirer au jour des archétypes, des goulots d'étranglement, des redites compulsives, bref, des invariants. Et c'est parce qu'elle nous donne le spectacle de ce qui change que l'histoire justement nous permet de discerner ce qui demeure, toute chose égale par ailleurs. Qu'elle nous permet de discerner un schéma transcendantal que n'altèrent pas les stades de développement économique et que le passage de l'huile de coude au moteur à explosion ou du moulin à vent à la centrale nucléaire ne semble malheureusement pas faire beaucoup progresser. Comme il y a de l'ineffable ethnique, ainsi que disait le roi Gourand, le préhistorien, il y a de l'indérogeable organique. On ne s'en aperçoit pas en écartant tous les faits, comme le demandait Jean-Jacques Rousseau, mais au contraire en portant sa vue au loin pour superposer les faits fondateurs d'hier à ceux d'aujourd'hui. Oh, vous savez, je n'oublie pas ce qu'il y a de cocasse et même de fort déplaisant. Dans l'idée d'une trame à très faible variance, logé au cœur d'un domaine voué par nature au changement, c'est maintenant. Nouvelle société, nouvelle frontière, nouvel horizon, nouvelle équipe. Le vir novus, l'homme nouveau, il est increvable. Et le renouveau, permanent. Avec moi, ça va changer. Rien ne sera plus comme avant. Il est grand temps de renouveler notre classe politique. Changeons nos propositions et nos comportements. Nous connaissons tous ces serments d'ivrogne qu'on entend résonner dans le poste à chaque rotation électorale, et même déjà un an avant les élections, et qui, quoi qu'on dise et malgré qu'on en ait, trouve toujours preneur. L'électeur y revient tous les 5 ou 7 ans, comme Chateaubriand dans sa Bretagne natale où, disait-il, tout a changé, hors les vagues qui changent toujours. Le discours du changement, c'est ce qui, sur le forum, n'a pas pris une ride depuis 3000 ans. Et il en faut, certes, du sang nouveau pour alimenter la pompe des luttes pour la prééminence, pour faire tourner la noria des vains espoirs d'échapper belle avec la conviction que le prochain tour, ce sera le bon, enfin. Oui, le parcours obligé, cela existe. Et je dirais que c'est tout à notre honneur que de ruer dans les brancards, que de refuser le parcours. C'est l'honneur en particulier des révolutionnaires et des démocrates. Les pénibles astreintes dont je parle, elles ont de quoi mettre la mort dans l'âme, et les tenants du participatif, les nouveaux modes d'action alternatifs, les mouvements sociaux où chacun peut apporter sa pierre, sont fondés à vouloir en faire fi. Oui, la force des choses, elle se perd de vue à l'entrée des agoras, au moment des défilés, des programmes, des discours et des manifs, et elle ne se retrouve qu'à la sortie, quand on franchit la porte des ministères, au moment de joindre l'acte à la parole. La force des choses ne concerne donc pas les indignés, Occupy Wall Street, Nuit Debout ou leurs équivalents. Elle concerne seulement le passage du feu de paille ou du tour de chauffe à une solution refroidie qui tient la distance, au cas où. Au cas où un groupe en effervescence choisit de transformer le colloïdal en cristallin pour peser dans un rapport de force. Et c'est un choix qu'il est infiniment estimable de ne pas faire, tant la cristallisation politique est un crève-cœur. Il suffit de voir pour s'en persuader ce qu'il est advenu aux vaillants utopistes qui se promettaient du passé faire table rase et qui, au pied du mur, ont reproduit en plus lugubre ses nécessités. Qu'aura-t-on vu de plus inégalitaire et ritualisé, de plus hiératique et fossilisé, de plus théocratie sans Dieu qu'un régime communiste ? Chassez les fondamentaux par la porte, ils reviennent par la fenêtre et empirent. Les lois de la gravitation universelle ne se modifient pas avec les millénaires, on en prend son parti. Mais qu'il puisse en aller de même pour les lois organiques qui président aux compositions humaines, ça nous hérisse le poil. Nous faisons de la résistance avec toutes sortes de rites propitiatoires pour conjurer le mauvais sort et nous psalmodions avec Rimbaud de loin en loin « que le temps vienne où les cœurs s'éprennent ». Il n'y a pas de grand soir, mais il y a des petits matins miraculeux, c'est vrai, où on croit pouvoir l'attraper au vol, ce temps égalitaire et fraternel, ce temps sans grade ni hiérarchie, on appelle ça l'illusion lyrique, mais ce temps n'a qu'un temps. Et les retombées, défrisantes au possible, nous ne voulons y voir que des infortunes dues au pas de chance, au manque de caractère, à la malveillance, au reniement des promesses. D'où s'ensuit, chez nos éternels réfractaires, provisoirement défaits et jamais résignés, gloire à eux, le sempiternel, engagez-vous, rengagez-vous, comptez sur nous, cette fois ça va marcher. Une rengaine que rien ne peut faire vieillir, toujours fraîche et joyeuse, mais les joies libertaires, hélas, sont de courte durée. Thank you. Il est bon de se cacher que le plafond de possibilité des inventions politiques est plus bas que ce qu'on aime à penser. Parce que ça nous permet de jouer de notre mieux sur ce que j'appellerais les variations de l'invariant. Car il y a du jeu, heureusement, et c'est le jeu de la politique précisément, que de déployer tout l'éventail des traitements possibles de l'invariant et préférer, par exemple, au chapitre hiérarchie, la solution suédoise à la solution indienne, disons le régime du mérite au régime des castes. Il n'en reste pas moins que les formations collectives ayant passé l'épreuve du feu, c'est-à-dire de la durée, elles peuvent s'interpréter en vue cavalière comme des déclinaisons, très appréciables ô combien, des déclinaisons d'un petit nombre de thèmes ou de leitmotivs. Que l'homo viator, l'homme en route vers un idéal de justice, de paix et d'égalité, témoigne d'une nette tendance à se cogner la tête contre le plafond, c'est le genre de constat factuel que les politiciens, ces faux réalistes vendeurs d'illusions, n'ont évidemment pas trop intérêt à divulguer. Et cela tombe bien pour eux, comme d'ailleurs pour nous, car leurs agitations ont quelque chose d'automatique. Les acteurs de ce théâtre, qui ne fait jamais relâche, sont des acteurs agis, à leur insu et de leur plein gré. Tout se passe en effet, et c'est mon hypothèse, comme s'il existait un inconscient du collectif, à ne pas confondre avec l'inconscient collectif du psychanalyste Jung. Lui non plus n'a pas d'histoire, tout comme celui des individus, mais il n'est pas d'ordre psychique, mais opératoire. Non à base de fantasmes, de souvenirs ou de représentations, mais à base de procédures et de protocoles incoercibles répétés à divers titres par les fondateurs de cités, de colonies, d'empires, mais aussi de régimes, de partis, d'ordres ou d'obédience. Les clés du royaume appellent à chaque reprise des gestes de même nature. Le complexe, ou noyau dur de l'organisation, mériterait de porter un nom propre, celui de Constantin le Grand, un cas limite. Un cas limite qui serait à l'inconscient collectif ce qu'est l'Œdipe à l'inconscient individuel. Mais ici, c'est de l'attesté, c'est de l'historique. Si Œdipe chez Freud n'est que le mythe d'un mythe sans autre source que légendaire, l'empereur Constantin renvoie à une réalité bien documentée. Constantin a fait en positif ce qu'Œdipe fait en négatif. Le très pieux empereur, certes, n'a pas tué son père, mais son fils aîné puis sa femme, en l'an 316. Ce double meurtre nous rappelle à quel point les apôtres du christianisme avaient le sens de l'organisation. Oui, Constantin s'était donné le titre de 13e apôtre de Jésus-Christ. En d'autres termes, Constantin construit et Œdipe détruit. Le monarque romain a gagné un royaume et même un empire, le roi de Thèbes a perdu le sien. Freud comparait le déroulement de la tragédie de Sophocle au processus d'une analyse individuelle. L'épopée de Constantin exhibe le processus d'une synthèse collective, incarnation à ce titre du bon gouvernement, au contraire de l'Œdipe, incarnation du mauvais. Et d'ailleurs, tout ce que cet empereur romain a touché est devenu solide, en latin entier. Même la monnaie, c'est à lui qu'on doit le solidus d'or, c'est-à-dire le sou, base d'un système monétaire durable. Pendant que l'Occident latin s'en allait à volo dans l'effritement barbare, les solides fondations de l'Empire romain d'Orient allaient permettre la survie pour plus d'un millénaire de la civilisation gréco-latine. Constantin, rappelons-le, est le fondateur de Constantinople, la nouvelle Rome, la future Byzance, l'actuel Istanbul, pour laquelle il a repris tous les gestes de la fondation de l'ancienne Rome sur le Palatin par Romulus. D'abord la limite sacrée, tracée à la charrue, puis l'invocation à la divinité, puis la dénivellation hiérarchique, entre patriciens et plébéiens par exemple. On peut voir en lui l'instaurateur de l'ère chrétienne où nous sommes toujours, dont l'an zéro devrait être en rigueur celui de sa mort. Parce que la reine des villes, le poste avancé de la romanité installé au point de jonction et d'affrontement de l'Occident et de l'Orient sur le Bosphore. Il mériterait d'être à la communauté chrétienne bien plus que Rome, ce que Jérusalem est à la communauté juive ou la Mecque à la communauté musulmane, la ville sainte par excellence. La Rome antique a duré un millénaire, Byzance encore plus, jusqu'en 1453. Avouez que, pour l'étude des conditions de formation et de stabilité des agrégats humains, ce laboratoire de longévité, plus d'un millénaire, est pour le moins digne d'attention. Je ne vais pas entrer dans les détails d'une carrière encyclopédique, un peu tel un préliminaire récapitulatif de la suite des temps. J'ai tenté de le faire dans un ouvrage un peu copieux, Critique de la raison politique ou l'inconscient religieux, 1980. Alors je résume à gros traits. À tous les niveaux, souverain, guerrier et théologique, la synthèse faite homme a mis en action la devise américaine, E pluribus unum, avec de la pluralité faire de l'unité. Il trouve un empire démembré en une tétrarchie, quatre empereurs. Il instaure une monarchie, le gouvernement d'un seul. Il trouve une mosaïque d'évêchés hostiles les uns aux autres. Il regroupe les diocèses en préfectures et fait une église homogène et hiérarchisée sous sa juridiction. Il trouve une doctrine chrétienne éclatée sous l'effet de la crise arienne en mouvance et hérésies diverses. Il convoque à Nicée le premier en date des consuls écuméniques de l'Église en l'an 325. Et il promeut, avec le symbole du même nom, le symbole de Nicée, la première définition dogmatique ayant valeur impérative. C'est à Constantinople, je vous le rappelle, que l'Église issue du Christ fut baptisée catholicos, catholique, universelle, et qu'elle reçut la permission de recevoir un legs, et c'est là aussi, et à ce moment-là, que le dimanche fut élevé à la dignité de jour férié. Voilà qui fait de Constantin beaucoup plus que le fondateur du césaropapisme byzantin ou l'ancêtre présomptif des modernes totalitarismes. Voilà qui en fait le témoin ou l'exemple d'une très compromettante intrication des genres. En filigrane, sous la fameuse toile de Piero della Francesca, le rêve de Constantin, « In hoc signo vinces », « Sous ce signe tu vas vaincre ». Oui, si tu veux vaincre tes adversaires, Maxence et Licinius, prends la croix comme emblème, elle te protégera et fera ta force. Ce que nous avons à refouler, en l'occurrence, c'est que notre religion d'amour et de paix est venue au monde comme les autres, si j'ose dire, par la force des armes, c'est-à-dire la bataille du pont Milvius. Ce que nous refoulons, c'est que la vérité du vrai Dieu repose depuis 17 siècles sur le coup de dé d'un chef de guerre hésitant jusqu'au dernier moment sur la voie à suivre ou la divinité à adopter. Il n'y a pas que le croissant et le sabre qui ont partie liée. La croix aussi a un pacte originel avec l'épée, comme on a eu dès l'origine la Bible avec le Colt dans l'Amérique des Revivals. La Bible et le Colt qui restent les deux piliers de l'Empire d'Occident. Le complexe de Constantin y plonge sous la table par tant de paix et de prospérité, et il émerge impoliment sans coup férir dans les périodes critiques à l'occasion d'un séisme, d'un désastre militaire ou d'un sévère attentat terroriste. Disons, quand les choses se durcissent. Il surgit au bord du gouffre quand une communauté sommée par les circonstances de se ressaisir se voit reconduite bien malgré elle au dur désir de durer. L'inconscient, il est régressif. Il est conservateur, il est récurrent comme un mauvais souvenir, vase de soissons, œil de Caïn ou meurtre fondateur. Et d'ailleurs, ce passé qui ne passe pas ou qui fait semblant, même si on fait tout pour s'en débarrasser, son refoulement importe un nom, c'est la civilisation. Parce qu'il a fallu se donner des interdits, qui déconseillent fortement de tuer son papa et de coucher avec sa maman. Mais on s'est donné d'autres interdits, en passant du statut au contrat et d'une société d'ordre à une société d'individus, pour ne pas avoir à élever des murailles aux frontières, pour ne pas avoir à tuer les hérétiques, pour ne pas avoir à unifier son pays à coups de triques et d'anathèmes, avec prosternation obligatoire et grades immuables. Mais c'est l'avantage du monstrueux, ou de Constantin, que d'opérer un passage à la limite qui a un effet de loupe sur les nos potentialités latentes, et qui nous incite peut-être à les mettre sous observation. Constantin nous souffle de loin, essaye de ne pas en arriver là, par où tu as commencé avec moi. Mais avec cela et avec moi, il te faudra te battre. Ne fais pas comme moi, mais fais bien attention, car cela est en toi aussi. Et c'est pour ne pas l'entendre ainsi murmurer que nous mettons sous le boisseau ce genre de monstre emblématique, prière de ne pas déranger. To make a long story short, l'ancêtre de la forteresse Amérique a délimité un espace, sélectionné une verticale et structuré un dispositif d'allégeance autour d'un symbole dit de Nicée. Le symbole, vous savez, par étymologie, c'est tout ce qui rassemble. C'est l'opposé du diable. Le diable, c'est tout ce qui divise. Alors, premier impératif, horizontal, la sécurité. Donc le périmètre. Tracer la frontière ou la ligne rouge. La petite bourgade grecque de Byzance, qui s'appelait Byzos, a été choisie par Constantin comme une citadelle pour barrer le Bosphore aux barbares. Et la fameuse statue de Constantin sur sa colonne de porphyre, qui était le symbole de la ville, elle faisait face à l'ennemi, à l'Orient, aux Perses. Le Vauban de Dieu a procédé par fortification concentrique. Le dogme, expression et rempart de la foi. La foi, rempart et expression de l'Empire. Et la ville nouvelle, bouclier de la foi nouvelle. Ce qu'on appelait le palladium. Et dont les murailles ont même précédé les habitants. Né à la périphérie de l'Empire, éduqué sur le limès, sur la frontière au métier des armes, familier des confins bretons, germaniques, espagnols, Constantin aura passé sa vie à faire le guet sur tous les chemins de ronde possibles, religieux, géographiques et juridiques. La définition d'une profession de foi, posée en dogme à Nicée, qui est le premier concile mondial, hein, je vous le répète, elle a scellé l'unité de l'Empire restauré. Contre l'hérésie arienne qui humanisait Jésus de Nazareth, le Fils est déclaré, je cite, « vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, donc consubstantiel à son Père ». Tout ça nous semble un peu charabia, mais qui ne souscrivait pas à cela était anathème et envoyé en exil. Vous voyez, avec tout cela, la boucle est bouclée. Cet homme vraiment avait la frontière, donc l'organicité, chevillée au corps. Deuxième impératif, après la sécurité, un impératif vertical, la consécration, puis la dédicace de la nouvelle capitale de l'Empire en l'an 330, dédicace au Christ. La consécration pour abolir le caractère profane de l'espace ainsi délimité, la dédicace pour sceller sa sacralité par une allégeance à une entité méta-empirique. S'il faut un rempart à l'horizontale, il faut une transcendance à la verticale pour célébrer une cohésion civique et transformer un « il » en « nous », quitte à faire des hérésies, des délits contre la chose publique. Le territorial et le doctrinal ne se divisent pas. Constantin a d'abord tracé physiquement un ensemble fermé sur le sol, non pas avec un soc de charrue comme Romulus, mais avec une lance. Et ensuite, juridiquement, il a bouclé un ensemble fermé de normes dans des textes. Troisième impératif, la hiérarchie. Jean-Paul Sartre, qui n'était pas un homme passionné de hiérarchie, a dit « Il faut séparer les hommes par des rituels pour les empêcher de se massacrer. » Or, il n'y a pas de rituel sans un protocole. Et il n'y a pas de protocole sans des préséances, des grades et des titulatures. Et Constantin a organisé un système d'échelonnement tant dans l'administration de l'Empire que dans son propre entourage, qui a servi de modèle à tous ses successeurs. Notez que Saint Paul, avant lui, avait déjà fixé la hiérarchie des ministères. Apôtres, préfets et docteurs, hein, en ordre décroissant. Ce qui a rendu possible la transmission de la foi, car transmettre, c'est organiser, et organiser, c'est hiérarchiser. Alors Constantin a réparti en trois classes les comptes du consistoire sacré. Le consistoire sacré, c'était le conseil du prince. Et c'est en se calquant sur sa cour que le pseudo Denis, le théologien oriental de langue grecque, a réparti peu après en trois classes, comme jadis les voyageurs de la SNCF et des paquebots des compagnies maritimes, il a réparti en trois classes la cohorte un peu confuse des anges. Première classe, séraphin, chérubin et trône. Deuxième, domination, vertu et puissance. Troisième, principauté, archange et ange. Notre protocole diplomatique, tout comme à Moscou, la troisième Rome, je vous le rappelle, hein, successeur de Byzance, tout comme à Moscou, ce qu'on appelle le chin pointilleux de la nomenclatura soviétique, c'est-à-dire les grades. Eh bien, ils ont hérité de ce dénivelé-là. Et je dirais même que des différents étages du palais constantinien, à l'organigramme de la maison de notre président de la République, à l'Élysée, la conséquence est bonne. Parce qu'il y a une hiérarchie, à l'Élysée comme dans le gouvernement. La conséquence est bonne à ceci près que l'ordonnateur des cérémonies élysiennes n'est plus appelé gardien de la science angélique, comme il l'était sous Constantin, mais il est appelé plus discrètement et simplement le chef du protocole. On ne voit pas que l'organisation en réseau des processus de production, qui a de fait considérablement allégé et horizontalisé le monde du travail, on ne voit pas que les classements hiérarchiques du monde politique en aient été affectés. Et de quoi d'autre nos journaux parlent-ils quand ils parlent de politique, sinon de la hiérarchie, des prestiges, des places et des popularités? Quant au dogme de l'incarnation, issu du Concile de Nicée, il sert encore de socle à notre culture. Notre culture aussi bien l'art de la peinture que la physique mathématique. Et je dirais même que ce dogme, il est à l'origine de ce qu'on peut appeler notre foi politique. En acceptant de naître et de mourir pour nous racheter, le dieu chrétien a pris les allures d'un dieu procession qui écrit droit avec des lignes courbes. Croire en ce dieu processus, c'est postuler que l'histoire ne procède pas par hasard, venu de rien, allant vers rien, en zigzag et au coup par coup. L'idée qu'il puisse exister un sujet de l'histoire et un seul, que ce soit l'humanité, la nation ou le prolétariat. L'idée qu'il y a un parcours de l'histoire et un seul, disons la succession des modes de production, des âges de l'esprit humain, des stades du développement technique. L'idée qu'il y a une fin de l'histoire, ou si vous voulez de la préhistoire, et une seule. La révolution socialiste, la société des nations, le respect universel des droits de l'homme, eh bien tout ça nous a semblé une idée de bon sens. Mais ce n'est pas pour rien que cette idée a été articulée et vécue dans l'Occident de souche chrétienne, de souche constantinienne, si j'ose dire. Et c'est parce qu'elle traduisait un dogme matriciel, à savoir qu'un seul Dieu a légiféré pour tous les hommes par le truchement d'un fils unique, le Christ. Si le Christ avait eu un petit frère assumé par la doctrine, aucune de nos modernes philosophies de l'histoire n'eût été possible. Ni qu'il puisse exister quelque chose comme une logique des événements, la passion de programmer et de justifier, disons la stratégie et la propagande, qui est notre fardeau et notre honneur, ça remonte aussi, par Constantin interposé, au verset de Saint Jean, au début était le verbe. Il n'y en a qu'un. Constantin, vous savez, n'avait rien d'un mystique. C'était un opportuniste prêt à tout, pourvu que ça marche. Et d'instinct, il l'a trouvé, après moult mariages à l'essai avec d'autres divinités tutélaires, avec Apollon ou le soleil invaincu, Sol Invictus. Il a trouvé la plus sûre des clés de voûte. Parce que, rappelez-vous qu'on ne pouvait à l'époque remporter une victoire militaire que instinctu divinitatis, avec du flair pour choisir la bonne divinité, le bon parrain protecteur. Et le choix in extremis du dieu caché des chrétiens fut un coup de génie. Pourquoi ? Les empereurs divinisés, dont le culte assurait jusqu'alors l'unité de l'Empire, n'étaient plus crédibles, parce qu'il y en avait trop, parce qu'ils étaient en surnombre et frappés de précarité. En proliférant, le culte impérial ruinait les bases du civisme, de par la multiplication de divinités halogènes de tout acabit qui faisait dire à Pétrone « Notre pays offre une telle foule de divinités qu'un dieu s'y rencontre plus facilement qu'un homme. » À la mort de Dioclétien, par exemple, prédécesseur de Constantin, il y avait 7 successeurs, tous augustes et divins, on les appelait ainsi, augustes et divins, pour se partager l'Empire. Eh bien, trop de loyauté tue la loyauté. À quel saint se vouer quand tout le monde est saint? En s'humanisant, le demi-dieu se banalisait, le politique perdait son encaisse fiduciaire, la flottaison du fondement métapolitique de l'Empire rendait sans logique ni nécessité la transmission du sceptre impérial. En revanche, en frappant une monnaie montrant une main sortant du ciel qui lui tend le diadème, ou encore le monogramme du Christ gravé sur son casque, l'empereur Constantin, comme personne individuelle, descendait des autels. Ce n'était plus qu'un simple exécutant de l'ordre divin, mais ipso facto, l'empire comme corps collectif y remontait sur l'autel. En se défaussant sur l'autre comme simple vicaire de la divinité, Constantin se déniait à lui-même l'autorité suprême. Il lui était dès lors possible de gouverner comme il faut, c'est-à-dire au nom et en place d'un grand autre. Omnis potestas ab alio, la formule est de saint Paul et elle vaut toujours. Tout pouvoir vient d'un autre. Et donc l'apparente dégradation symbolique de la tête de l'Empire fut le prix à payer pour reconstruire la puissance de l'Empire. Ce que le chef de la cité terrestre rétrocédait à l'épouse du Christ, l'Église représentante de la cité de Dieu, il le recouvrait au centuple en autorité politique. Parce qu'une bonne commandance est une lieutenance. Elle doit toujours venir de plus haut que vous. Et comme la République romaine descendait de Vénus via Énée, l'empereur païen recevait jusqu'alors sa divinité de Jupiter ou d'Hercule. Constantin, lui, il la tiendra du Christ ressuscité. Et après lui, l'empereur ne portera plus le titre d'impérator César, mais de Dominus Noster. Nuance. La substitution du domina au principa, c'est tout le contraire d'une perte de face, d'une diminutio capitis. Car la majesté est indirecte, elle n'émane pas d'un mortel, elle rejaillit sur lui. En jurant fidélité au Messie, médiateur idéal, Constantin rétablissait les écarts qui étaient allés s'effacer entre les plans humains et divins, et il s'instituait lui-même en médiateur unique. Le culte de l'empereur n'était plus qu'un sous-produit logique du culte du Christ, et le peuple romain devenait le seul peuple de Dieu. Voyez-vous, une transcendance quelle qu'elle soit, c'est une permanence. Cela ne meurt pas avec l'individu qui l'incarne ou qui la représente. Transmission garantie. Alors, pour résumer en langue un peu alerte, échange monothéisme contre monarchie. C'est le donnant-donnant d'une consécration de ce type. J'étatise votre sacré, vous sacralisez mon état. À terme, évidemment, l'instituant devait l'emporter sur l'institué et l'empire chrétien survivre au christianisme impérial. Mais ainsi fut remédié à la déséconomie d'échelle provoquée par l'engorgement du panthéon romain, par le trop de dieux, plus de dieux. Parce que, ça va vous sembler étonnant, mais il est toujours plus facile et rentable de traiter avec un absent qu'avec plusieurs. L'important dans cette étrange affaire, c'est le lien constant entre clôture en contrebas et ouverture en hauteur. Un lieu circonscrit est ipso facto un lieu dédié, consacré à une majuscule en surplomb. Je délimite, donc j'invoque. Le salut, le paradis, la patrie, la justice, la révolution, la constitution, ce que vous voulez. Et par quel mystère cet enchaînement? Pourquoi l'acte de regroupement en abscisse s'accompagne d'une référence en ordonnée à quelque chose de supra-empirique, de supra-sensible, à quelque chose qui a été ou qui sera, mais qui actuellement n'est pas encore ou n'est plus? Parce qu'un ensemble de relations ne peut être relatif à lui-même, ou alors ce n'est plus un ensemble. J'emploierai ici le terme d'incomplétude, emprunté au logicien, au fameux logicien Gödel. Son théorème stipule 1. Qu'un système formel d'arithmétique consistant, c'est-à-dire où on ne peut pas démontrer une chose et son contraire, un tel système est toujours incomplet, en ce sens qu'il comporte des propositions indécidables, c'est-à-dire dont on ne peut pas démontrer ni qu'elles sont vraies ni qu'elles sont fausses. Et, deuxième partie du théorème, du fameux théorème de Gödel, la démonstration de la consistance d'un tel système peut être formulée avec les règles du système, mais non démontrée avec ces règles. Non démontrée, hein, c'est-à-dire en l'air. Alors, Ce n'est pas extrapoler un résultat scientifique en dehors de son champ de pertinence que de voir là, disons, dans ce jeu interne et externe, je dirais pas un modèle d'intelligibilité, mais enfin, une ressource de pensée exceptionnelle. Et d'ailleurs, je note que Gödel lui-même a fait une analogie entre son théorème et ce qu'on appelle la question sociale. Hein. Il l'a fait dans une lettre à un ami. Alors, évidemment, sur le terrain politique, il ne s'agirait plus d'un théorème, mais d'un principe non démontré, mais vérifié dans ses conséquences. Car force est de constater très empiriquement que la clôture d'un territoire imaginaire ou matériel ou les deux ensemble et son ouverture à un point exogène de cohésion, loin de se contredire comme le voulait Bergson, Bergson qui opposait toujours morale close et morale ouverte, eh bien, ils se superposent l'un l'autre. Disons que la cohésion interne s'obtient par une référence externe. En d'autres termes, si vous voulez, le passage du tas au tout, de l'éphémère au consistant, c'est-à-dire le passage politique, il semble bien appeler à la fois à la fixation d'une frontière, enceinte ou limite, alors pas nécessairement territoriale, hein, doctrinale, administrative ou juridique, et la fixation, je dirais, d'un point d'absence, d'un principe, Dieu, héros, texte ou événement, placé au-dessus du tout ainsi constitué, fatalement précaire, un tout qu'il est chargé à la fois de cristalliser et de pérenniser. Donc, suspendu, je dirais, par son insuffisance intrinsèque, à une valeur symbolique immatérielle, le collectif exige, disons, un manque à être, une absence. En somme, en nous faisant la grâce de ne pas se montrer, voire même de ne pas exister, Dieu s'est assuré une formidable emprise sur nos imaginaires et les conduites qui en dérivent. « Que deviendrions-nous » demandait Valérie, « sans le secours de ce qui n'existe pas ?» On peut pousser le bouchon plus loin. L'homme n'est comblé que par ce qui lui manque. Ce qu'attestent à divers titres, notre goût invincible des paradis perdus. Le bonheur ne naît que pour être perdu, seul ce qui est perdu est éternel, disait l'auteur dramatique Ibsen. Comme l'atteste la chanson du mal-aimé d'Apollinaire et l'amour courtois pour la princesse absente. Comme l'atteste l'échappée par le haut des détenus, car souvent l'esprit s'enlève quand on enferme le corps dans un monastère ou dans une prison. Comme l'atteste notre invention perpétuelle de lieux de mémoire et de grands morts, de grands absents, notre inlassable besoin de nécromants et de confidents de la Providence, comme notre besoin de plans sur la comète et de science-fiction futuriste. Comme l'atteste également l'irremplaçable apport des pompes funèbres à l'entretien des confréries, des compagnies et des fraternelles, à l'entretien même des familles. Les obsèques ont cette vertu de retendre la toile, pour ainsi dire, une toile qui, sans cérémonie funèbre, se laisserait un peu trop aller au flasque puis à l'effilochage. D'où la joie secrète et quelque peu honteuse qu'inspire aux survivants qui la masque sous des mines d'enterrement, les funérailles du patriarche, le moment fort, des familles comme des nations d'ailleurs. Oui, les collectifs ont toujours une tombe pour lieu de naissance, et un jour de deuil pour servir d'an zéro, une règle qui vaut pour les calendriers religieux autant que politiques. La proposition théorique les groupes font le plein par le vide. Elle peut se traduire en termes pratiques par un « mourez, nous ferons le reste » ou encore « donnez-moi un mort et je vous ferai une société ». À commencer, bon début, par la société des amis du mort. Regardez dans l'histoire. La mort de Rémus, le frère de Romulus, Rémus le violeur, Rémus le saut de frontière, Rémus qui a voulu sauter par-dessus l'enceinte tracée par Romulus. La mort de Rémus, assassiné par son frère, c'est la naissance de Rome. Caeso menia firma Remo, dit le poète Properce, une fois les enceintes consolidées par le meurtre de Rémus. Oui, un meurtre, ça consolide. Mort du Christ, naissance de la foi en la résurrection et du mouvement chrétien. Mort de Lénine, naissance en Russie du léninisme et consolidation du régime, avec sacralisation du Parti communiste. Donc, voyez-vous, on pourrait citer d'autres exemples. La levée du corps, comme on la nomme si bien, la levée du corps à la verticale, ça permet la prise de corps en contrebas, car la levée du corps, elle fait monter le défunt en ordonnée, et donc en catalyseur de la transformation en abscisse d'une bande d'endeuillés en un cercle d'héritiers. Alors qu'elle divinise, héroïse ou sanctifie une disparition physique, c'est de nature à resserrer les liens des survivants. Et au fond, des événements qu'un individu est en droit de tenir à son échelle pour des malheurs déplorables, le décès d'un chef de file, l'érection d'une palissade au bout du jardin et une profession de foi sous serment, ce sont trois choses qui s'appellent l'une l'autre, eh bien, ces tristes événements, c'est ce qui fait ou fera le bonheur d'une communauté en gestation. Sans le confort et contrefort de laquelle, avouons-le, on se sentirait soi-même un peu perdu, disons, assez vulnérable et malheureux. Alors, la sagesse des nations s'en va répétant que l'avenir n'est écrit nulle part. Bon, ce n'est pas tout à fait faux et ce n'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait faux parce que l'histoire, comme dit Schopenhauer, c'est « Eadem sed aliter », toujours la même chose, « Eadem sed aliter », mais chaque fois autrement. Et c'est vrai qu'on a tout intérêt à travailler cet « aliter », cet « autrement », sans quoi d'ailleurs on s'embêterait à mourir. Et c'est ce que fait la politique, travailler cet « aliter » avec ingéniosité et volonté. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on discerne assez bien le « Eadem », le « toujours la même chose », dans un secteur d'activité où l'espoir enchaîne presque mécaniquement sur la déception, parce qu'on discerne assez bien sous le chaos des événements certains rapports constants entre séries de phénomènes qu'on appelle des lois et dont l'ensemble fait un canevas sur quoi broder, mais pas au-delà. Et après tout, on ne sache pas que l'électricité ait supprimé la nécessité de dormir ou de mourir. On ne sache pas que les énergies renouvelables aient supprimé le chagrin d'amour ou la connexion Internet, le besoin de rencontres en chair et en os. Admettre que nos marges de manœuvre sur le terrain de la police ont un très faible degré d'élasticité, ou si l'on préfère, un fort indice de viscosité, cela ne devrait pas nous décourager. Cela pourrait même nous inspirer, je dirais, une humilité prophylactique ou préventive. Alors j'entends bien, vous trouverez que c'est une triste nouvelle, si c'est une nouvelle. C'est une nouvelle qu'on n'aime pas voir en face. Mais après tout, construire des cités, fonder des fraternelles, des obédiences, des clubs, des partis, c'est pas l'unique vocation de l'espèce humaine. Elle a d'autres cordes à son arc, l'espèce humaine. Elle peut produire des vérités. Elle peut fabriquer de belles choses. Elle peut élever sa progéniture pour l'attirer vers le meilleur. Elle peut même concevoir pour un partenaire une préférence sexuelle exclusive, c'est ce qu'on appelle l'amour. Ce sont là des domaines où elle peut faire preuve d'excellence, l'espèce. Et elle peut se consoler pratiquement avec tout cela, des déboires qu'elle rencontre de loin en loin dans sa recherche d'une vie en commun idéale. Et donc, juger le congénère sur le seul paramètre politique du « tous ensemble et comment faire », ce ne serait pas seulement réducteur, ce serait, je l'avoue, assez déprimant. Mais nous avons par chance d'autres échelles de valeur qui ne relèvent pas du tribunal de l'histoire. Et après tout, libre à chacun de renoncer à ce que Pascal appelait les grandeurs d'établissement pour se consacrer à des tâches qu'on dira plus sérieuses ou plus frivoles, c'est selon, mais en tout cas moins frustrantes. Des tâches telles que nourrir son chat, tailler ses roses, ou noircir du papier, comme vous ou moi. Mais il n'est pas inutile de jeter un regard sur notre passé collectif pour savoir ce que l'on peut ou non escompter à l'avenir et sur quoi faire fond dans nos projets, je dirais, de coexistence pacifique. Et on reparlera de la laïcité ailleurs. Mais enfin, il y a là un moyen de faire que l'avenir meilleur qu'on se donne à juste titre en pensée ou en parole, en programme ou sur les affiches, eh bien c'est un moyen de faire que cet avenir ne débouche pas sur une énième reprise de faux fuyants ou de mauvais procès après la déception. S'épargner d'entrée de jeu quelques séduisants trompe-l'œil, ce n'est pas faire preuve d'un esprit chagrin. C'est au contraire faire par avance une économie de chagrin, ou si vous voulez, une provision de force d'âme, une provision de stoïcisme face à d'éventuels déconvenus, puisque, paraît-il, un homme averti en vaut deux. Alors écoutez, après quelques milliers d'années de traverses et de contrariétés, il devrait être permis, fût-ce de façon un peu cavalière, comme je viens de le faire, il devrait être permis de sauter aux conclusions. Une poire contre la soif, c'est un genre de cadeau qu'on devrait avoir le droit de s'offrir après tant de bons et loyaux services rendus à l'irréalisable. Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.